Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Allez, ce soir, dans le débat du jour, nous parlons de l'IA et de l'intelligence humaine.
Le débat du jour. Romain Osoui.
Car ce n'est un secret pour personne, l'intelligence artificielle ne cesse de progresser à vitesse grand V. Déjà aujourd'hui, les systèmes d'IA générative peuvent réussir les examens pour devenir médecin ou avocat, peuvent écrire de la poésie, peuvent générer des peintures esthétiques, peuvent composer de la musique originale. Autant d'éléments qui touchent de plus en plus à l'humain. Notre débat ce soir, l'IA va-t-elle dépasser l'intelligence humaine ? Cette question est un concept, on parle de singularité technologique, et pour certains experts, eh bien, cela pourrait intervenir dès l'an prochain. Mais dès lors, que deviendrait la pensée humaine ? Quel avenir sur cette Terre si la machine supplante son créateur ? Y a-t-il des spécificités de l'intelligence humaine que l'IA n'atteindra jamais ? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités, à mes côtés en studio, Daniel Andler, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite de Sorbonne Université, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Votre ouvrage, au cœur de notre débat, Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme. Vous nous expliquerez pourquoi il y a une double énigme. Julien Gobin, face à vous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, auteur du livre L'individu, fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle. Bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. Première question, Daniel Andler, comment est-ce que vous jugez, comment est-ce que vous observez les progrès, je disais vitesse grand V, de l'IA ces dernières années? Est-ce que ça vous impressionne d'abord ou est-ce que ça vous effraie d'abord ?
Non, je dirais que ça m'impressionne. Ça ne m'effraie pas trop parce que je ne crois pas du tout à un rattrapage ou un dépassement.
Oula, débat est déjà clos.
On peut passer à une autre question. Donc ça ne m'effraie pas directement. J'ai pas l'impression que demain l'intelligence artificielle, des systèmes d'intelligence artificielle vont prendre les choses en main. Uh-huh. Je ne le pense pas du tout. Je sais que d'autres...
Mais ça pose question.
Ça pose question, d'accord. Mais donc ça ne m'effraie pas. En revanche, certainement, les effets direct et indirect de l'utilisation massive des systèmes d'intelligence artificielle un peu dans tous les secteurs d'activité professionnelle et également dans la vie personnelle, dans la vie quotidienne, la vie intime, etc. Ça m'effraie beaucoup, d'autant plus que il est parfaitement clair que les inventeurs de ces machines bénéfiques et infernales à la fois n'ont pas beaucoup réfléchi avant de lancer leur affaire. Donc on n'a même pas, en quelque sorte, la garantie qu'ils ont fait attention. Un fabricant de voitures, ouais, il fait attention, il ne va pas lancer des voitures grand public avant de s'assurer que, bon, bah, on, par exemple, qu'on sait les conduire, qu'on peut les conduire. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé c'est pour l'intelligence artificielle.
C'est hors de contrôle aujourd'hui, vous avez le sentiment ?
Oui,
c'est dans quel domaine ?
Bah, un peu dans tout. C'est-à-dire, ce qui est hors de contrôle, bah, par exemple, tout ce qui est gestion intelligente d'Internet, les réseaux sociaux, les algorithmes de recommandation, etc., tout ça, c'est complètement, ça échappe totalement au contrôle. Ça se développe comme ça pour maximiser l'attention, passer le temps passé sur les systèmes, sans égard particulier pour la santé mentale, pour la qualité des relations sociales, et ainsi de suite. Mmh. Et d'autre part, c'est poussé très très fort par l'industrie dans toutes sortes de domaines qui vont du droit à la sécurité publique, à l'enseignement, à la santé, à la médecine, etc., sans du tout de tests sérieux sur la qualité des services rendus. Mmh. Et ça, c'est assez effrayant.
Ça pose des questions éthiques.
Oui, ça pose des questions éthiques tout à fait centrales.
Voilà pour votre réponse en tant que membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Julien Gobin, en tant que philosophe, vous observez comment ce déploiement de l'intelligence artificielle ?
Écoutez-moi, à mon sens, il répond à une trajectoire en fait qui est un peu plus ancienne, qui est celle de l'automatisation et l'automatisation de la force physique et aujourd'hui l'automatisation de processus intellectuels, mais donc avec une question qui en découle, c'est que évidemment l'automatisation, on attend plus d'efficacité, plus de fiabilité, et donc que ça nous dépasse, c'est presque ce qu'on attend quand on automatise, c'est pour que ça nous dépasse. Mais ensuite, philosophiquement, qu'est-ce qui chez l'homme échappe à l'automatisation ? Jusqu'à présent, l'intelligence, on la plaçait comme la balise qui nous distinguait un peu du reste de la machine et des animaux, etc. Donc une complexité cérébrale. Et bien aujourd'hui, est-ce que cette zone n'est pas attaquée, une forteresse attaquée? Et donc ça soulève en fait une question qui est: où est l'homme dans l'homme? Parce que derrière tout ça, finalement,
Que reste-t-il de l'homme?
Oui, c'est ça en fait. Que reste-t-il de l'homme? Et ce qui m'intéresse, c'est que cette possibilité d'automatiser la pensée, c'est comme un miroir. Ça nous force à nous regarder en face et à éliminer peut-être ce qui relevait du mythe, du récit, dans la vision qu'on avait de l'homme, qui a un peu fondé aussi notre civilisation. Et peut-être cela nous force à concevoir différemment ce que l'on est et peut-être se concentrer sur les bons arguments pour défendre l'homme et ne pas chercher à se battre là où finalement tout cela peut être avalé par la matière.
Automatiser la pensée, vous diriez que c'est le credo de l'IA aujourd'hui ?
Automatiser des modules de la pensée, des certaines fonctions, mais qui ensuite, à terme sans doute, pouvoir les connecter entre elles, avoir une interopérabilité et donc ne pas avoir juste des modules séparés parce que le cerveau humain en fait rassemble un certain nombre de fonctions. Et donc à terme en tout cas, on n'y est pas encore et donc là c'est toute la question peut-être du débat, c'est la chronologie. Ouais. Aujourd'hui, il y a encore une grande distance, mais la question à se poser pour pouvoir anticiper un peu l'avenir, c'est qu'est-ce qui échapperait à l'automatisation chez l'homme.
Qu'est-ce qui échapperait à l'automatisation chez l'homme? Ça, c'est intéressant. Daniel Andler.
On peut dire ce qui échappe à l'automatisation, c'est la personne. C'est-à-dire que vous, par exemple, je ne vous vois pas remplacé demain par une intelligence artificielle. Merci. On pourrait être trois intelligences artificielles, on peut déjà construire des débats. Bon, c'est pas encore parfait, mais là, je crois au progrès. Je pense qu'effectivement, on arrive, on approche de ce genre de choses, mais on aurait un débat entre trois mécanismes, et pas un débat
mais
entre
la limite,
trois personnes.
En quoi est-ce qu'il y a davantage de limites qu'avec une intelligence humaine?
Mais parce que nous avons une expérience d'êtres humains. Nous avons nos valeurs, nos préférences, notre façon de vivre notre personne. Et à tout moment, cette personne que nous sommes dès les premières minutes de l'existence, évidemment, c'est pas complètement développé, le bébé n'a pas une théorie de sa propre personne, mais implicitement, il développe une théorie de sa propre personne.
Mais ça, l'IA s'appuie sur l'expérience des êtres humains, puisqu'encore une fois, on rappelle que toute l'intelligence artificielle est de plus en plus importante, parce qu'elle provient majoritairement des données d'Internet, donc issue de l'humain.
Oui, absolument. Ce qui permet effectivement à l'intelligence artificielle d'engager des conversations à peu près sensées avec des êtres humains. Mais vous n'êtes pas la moyenne des 15 milliards ou des 150 milliards d'êtres humains qui ont jamais écrit sur Internet. Vous êtes vous-même dans une certaine situation, sur la durée, mais aussi sur le présent, le moment présent, en ce moment. Vous êtes dans une situation, vous essayez de vous en tirer le mieux possible, comme moi et comme mon camarade. Et ça, c'est quelque chose qu'un automatisme ne peut pas comprendre, parce qu'il n'a pas d'enjeu, si vous voulez.
Je vais poser la question à Julien Gobin. Ce débat, il ne pourrait pas être mené par 3IA? Ou à l'avenir, en tout cas.
En apparence, en fonction, sans doute, en simulacre, l'expérience vécue ne serait pas du tout la même.
D'accord.
En revanche, le résultat, là, c'est ce qu'on appelle un peu le fonctionnalisme, c'est ce qu'on pourrait avoir, un débat simulé avec des voix, etc. D'ailleurs, c'est une fonction qu'ont certaines intelligences artificielles de pouvoir retranscrire des articles scientifiques ou des articles en podcast, en interview, avec l'un qui relance, etc. Donc, on pourrait obtenir le simulacre.
Un simulacre, donc... qu'on peut imaginer d'un même niveau, potentiellement.
Alors, en mon sens, oui, potentiellement. Mais avec une question qui est, finalement, ce que disait le professeur Handler, c'est avoir nos propres valeurs, nos propres enjeux. Mais est-ce que nous sommes nous-mêmes responsables de nos propres valeurs, de nos propres enjeux? Et je pense notamment au déterminisme biologique, par exemple, déterminisme social. Rien que la survie, vouloir vivre, se reproduire, etc. Et c'est presque déjà une première impulsion. Et tout le reste, ce sont des stratégies intermédiaires, des buts que sont fixes pour optimiser un peu la survie de l'espèce. Et donc moi, la frontière me paraît assez ténue, dans le sens où ce qu'on pense être nos buts premiers sont peut-être en fait des stratégies subordonnées à des buts que l'on n'a pas choisis nous-mêmes. Et c'est assez vertigineux de voir comme ça.
Daniel Andler évoquait ces spécificités de l'intelligence humaine que l'IA n'a pas su rattraper. Quelles sont-elles, selon vous?
L'une qui me semble très pertinente, c'est de gérer des situations ambiguës, où on ne sait pas vraiment comment hiérarchiser nos buts, comment agir, prendre en compte de l'implicite, du bon sens. Donc il y a beaucoup de choses qui sont pour l'instant inaccessibles à l'IA. Est-ce que cela veut dire que à l'avenir, dans 20, 30 ans, 40 ans, ça sera rattrapé? Là, c'est une question qui relève peut-être de ce qui est automatisable chez nous. Là, j'ai pas la réponse, mais pour l'instant, à l'instant présent, il y a des différences majeures quand même qui distinguent l'homme de la machine.
Oui,
Daniel Andler. d'ailleurs.
On est d'accord, mais je dirais que c'est un peu une question de charge de la preuve. Parce que qui est-ce que nous dit que nous sommes en train de faire des progrès extraordinaires, tous les jours c'est encore meilleur, on passe les examens, etc., etc., et que donc il va forcément arriver un moment où ça va atteindre et dépasser l'intelligence humaine. Qui est-ce qui vend ce narratif,
ce que vous dire, c'est, maintenant est-ce que la question elle ne devrait pas se poser?
Simplement, elle est mal posée. C'est-à-dire que ce narratif est complètement erroné.
Parce que pour vous, il y a une réponse claire, c'est l'intelligence humaine sera toujours supérieure.
Non, c'est dans l'autre sens. C'est pour ça que je parle de charge de la preuve. Okay. Je dis que les gens qui disent qu'on est sur le point de rattraper, etc., ils doivent commencer à nous le prouver. Or, ce qu'ils nous offrent, ce sont des fausses preuves. Je vous donne un exemple caractéristique d'une fausse preuve qui a beaucoup remué les foules, à juste titre, moi aussi, c'est quand, effectivement, les systèmes d'intelligence artificielle ont commencé à passer des examens difficiles, des examens de maths, des examens de droit aux États-Unis, des examens de médecine, etc. Oui, simplement, passer des examens de médecine, c'est pas la même chose que se préparer à être un bon médecin. Ce que détecte chez l'homme le fait d'avoir passé avec succès un examen de médecine, c'est tout un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de sens commun, de valeurs, etc., qui est dont l'être humain est muni, en quelque sorte, au moment de se présenter devant un patient. Et ben le système qui répond à des questions difficiles d'un examen de médecine, il n'est pas équipé de ça. Et si vous regardez, je propose souvent l'expérience de pensée suivante. Le matin, vous réveillez et vous demandez, dans les différents moments de votre action, les plus triviales, vous brossez les dents, passez un coup de fil, ramassez vos affaires, etc., quelles sont celles dans lesquelles vous verriez une automatisation possible? En fait, très peu. C'est quand on arrive à un état où on a un problème relativement bien posé, ce qui arrive une fois de temps en temps dans la journée, dans la semaine, là on a un vrai problème, comment, je sais pas, inviter deux amis qui ne s'entendent pas entre eux, voilà un problème bien posé. Alors là on peut imaginer dès à présent une aide de l'intelligence artificielle.
Ce que vous dites, c'est que l'IA va pas révolutionner le monde.
Ouais, tout à fait. Elle va causer de grands changements, mais elle ne va pas consister à substituer des machines aux êtres humains dans toutes leurs fonctions. On en est très très loin.
Est-ce que vous direz finalement que l'IA a des avantages que l'intelligence humaine ne peut pas avoir?
Bien sûr.
Et vice-versa?
Absolument, tout à fait. Non, c'est pour ça qu'il faut viser une complémentarité intelligente, une synergie bien pensée au niveau individuel, au niveau social, au niveau du partage des tâches, au niveau... Enfin, il y a tout un écosystème à repenser avec l'aide, la présence de l'intelligence artificielle, y compris des robots d'ailleurs.
Julien Gobin, je vais vous poser tout à l'heure la question évidemment de la singularité technologique, puisque Daniel Handler y a très vite répondu sur c'est la question de notre débat, est-ce que l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine? Mais est-ce que finalement, cette question, elle ne doit pas se poser? La question n'est pas d'opposer intelligence artificielle, intelligence humaine. Est-ce que les deux doivent tout simplement coexister?
Pour l'instant, je pense que oui. Et pour une raison simple, c'est que finalement, l'intelligence artificielle peut résoudre des problèmes qu'on lui donne. Donc des buts qui lui sont fixés de l'extérieur. Mais le monde, en soi, n'a aucun sens. C'est l'être vivant qui lui donne du sens. Et qui peut savoir dans le marasme et dans le flou du monde, ce qui peut poser un problème, ce qui fait problème pour lui. Mmh. Et auquel cas, l'intelligence artificielle, à ce moment-là, est un outil pour l'aider à résoudre ses problèmes. Mais jamais d'elle-même, elle va identifier des éléments qui correspondraient à ses propres intérêts. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc avoir des buts premiers qui lui sont intrinsèques, c'est-à-dire qui sont fixés en elle dès le début, non, elle est toujours subordonnée à des buts extérieurs qu'on lui donne. Mmh. Et en ce sens, c'est forcément une collaboration. Néanmoins, donc il y a cette différence entre savoir ce qui fait problème, avoir des buts premiers qui est un peu le propre de l'homme qui les donne à l'intelligence artificielle. Mais en effet, retour, et c'est là où il y a peut-être un nœud, c'est que ces intelligences artificielles refaçonnent le monde et commencent à influer sur la manière dont nous-mêmes nous fixons nos buts. Quand bien même elles n'auraient pas cette fameuse intelligence qui leur permettrait de poser ces buts, cela nous influence. Donc on est exposé à la fois de la manipulation, à une façon de présenter le monde qui nous oriente, qui nous guide.
Parce que ça vient d'Internet, les fameux biais.
Les fameux fameux biais.
De l'intelligence artificielle.
Et un autre élément hein, qui est peut-être plus sournois, c'est par confort de lui donner pour mission de nous faire accoucher de nos buts. Ce sont tous les algorithmes de recommandation. Je ne sais pas trop ce que je veux, aide-moi, etc. Et donc finalement, on délègue par beaucoup d'explications possibles, mais l'une d'entre elles qui est dans notre civilisation, un peu la fatigue d'être soi, trop de choix, donc on a besoin d'être guidé. Et à ce moment-là, comme l'étape de la réflexivité est une étape poreuse à l'influence, on laisse l'IA s'immiscer là-dedans, et à ce moment-là, quand bien même elle n'a pas la possibilité de fixer nos buts premiers, on lui demande de le faire, on lui accorde une confiance excessive.
C'est un cercle vicieux, en fait, parce que en gros, l'intelligence humaine a créé l'intelligence artificielle, encore une fois, par toutes les données qu'on trouve sur Internet, et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, influence et va continuer à influencer l'intelligence humaine, puisque de plus en plus, les humains vont utiliser l'intelligence artificielle.
Tout à fait. Et c'est pour ça que l'idée de dire c'est un outil, on peut planter un clou ou tuer quelqu'un avec, finalement, c'est... Bon, il y a une partie de vrai, mais c'est aussi c'est faux, puisque c'est tout l'environnement et toute notre interaction qui se retrouve modifiée. Et c'est cet effet retour qui n'est pas du tout une question d'usage bien ou mal. C'est tout simplement notre condition humaine qui se voit bouleversée. Et finalement, notre trajectoire est influencée par ces outils.
Quelle est la double énigme, Daniel Handler, dans votre ouvrage Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme? Et est-ce que vous y répondez à cette double énigme? On essaie de répondre à une question ce soir.
Il y a plusieurs interprétations de la double énigme, mais peut-être la plus simple, puisqu'on manque un petit peu de temps. Bah, l'intelligence humaine a toujours été considérée comme une énigme. Depuis l'aube des temps, on se demande, et on dit qu'il y a autant de définitions de l'intelligence qu'il y a d'écoles de psychologie, de philosophie, etc. etc. Donc on ne sait pas très bien ce qu'est l'intelligence humaine. On reconnaît des différences d'intelligence ou des différences entre moments d'intelligence. Il y a des moments où j'ai l'impression que je ne suis pas trop con, et il y a beaucoup de moments où j'ai l'impression que je suis très bête, que j'ai vraiment manqué d'intelligence, de présence d'esprit, d'inventivité, etc. Donc l'intelligence humaine est déjà une sorte de mystère, c'est une boîte noire. On s'en sert tout le temps, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Première énigme. Et la deuxième énigme, c'est celle à laquelle j'ai fait rapidement allusion, enfin je précise, c'est justement cette idée que d'une part, l'intelligence artificielle fait, et pas depuis hier, hein, c'est une longue affaire, comme on l'explique dans les histoires de l'IA. L'IA a à peu près 70 ans, et on peut remonter jusqu'au 18e siècle, jusqu'à la tradition rationaliste, jusqu'à Hobbes, Leibniz, etc. Donc c'est une vieille histoire, c'est ce que disait très bien Julien tout à l'heure. Donc c'est une vieille histoire, et on remarque que l'intelligence artificielle fait des progrès spectaculaires. Et alors, l'énigme ici pour moi, c'est comment se fait-il que tout en faisant des progrès spectaculaires et tout en visant le paradigme de l'intelligence humaine, il cherche quand même à reproduire l'intelligence humaine, comment se fait-il qu'en fait, elle ne la rattrape pas ? Et l'image à laquelle je la compare, c'est à un chien qui court après la lune. Ouais. Il court après la lune et il la rattrape pas.
Moi, ça renvoie à la question que je posais à Julien Gobin. Hein, en fait, intelligence artificielle versus intelligence humaine, est-ce qu'il ne faut pas les comparer ? Moi, je vois deux lignes droites qui s'avancent. Est-ce que c'est un peu ça rejoint votre comparaison ?
C'est une autre métaphore que j'aime bien. Oui.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
L'IA va-t-elle dépasser l'intelligence humaine ? La question qu'on pose ce soir en ce 1er mai. Mes deux invités sont Daniel Handler, que l'on entendait, qui est professeur émérite de Sorbonne Université, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Votre ouvrage, auquel vous faisiez référence, Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme. Et Julien Gobin, philosophe, auteur du livre L'individu, fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle. Julien Gobin, quand 2700 chercheurs affirme que d'ici 2060, l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine. Daniel Handler nous a dit que ça n'arrivera jamais. Vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que vous répondez ?
Bon, ça serait un peu prétentieux d'avoir la réponse ultime. En revanche, là où je peux souscrire un peu à ses propos, c'est que le postulat, c'est que finalement, tout chez l'homme serait résultat de matière, d'interaction entre des portes logiques, que ce soit des neurones, etc. Ouais. Et donc finalement, rien n'échappe à l'automatisation. Et donc ce postulat me semble assez intéressant. En tout cas, apporte, plus le temps avance, plus la part qui était la part du libre-arbitre humain se retrouve réduite. Elle n'est pas encore annulée, il y a encore des zones mystérieuses, des zones d'ombre. Néanmoins, plus le temps avance, plus elle est réduite en extension. Et dans ce cas, tout simplement, je crois qu'il y a une phrase que vous citez dans votre livre, professeur Handler, qui est de Stuart Russell, disant grosso modo... bien malin celui qui dira qu'il n'y a pas une configuration d'atomes qui permettrait de faire mieux que l'intelligence humaine. Et donc, si on prend ce parti pris, je suis d'accord. Mais toute la question, et c'est là où il y a une ambiguïté, c'est de se dire, cette IA, cette singularité, aura ses propres intérêts, ses propres buts, une conscience, et que finalement, il y aurait une autonomie dans la volonté d'agir. Mmh. Et là, je suis plus sceptique. Et le débat devrait plutôt être déporté sur le fait de se dire, pourrait-on contrôler la bonne exécution des buts qu'on lui demande, tellement elle est intelligente, et donc elle pourrait nous surprendre. On pourrait lui demander de réaliser quelque chose, mais par des moyens que l'on n'attendait pas, et qui se retrouvent être des contre-finalités.
Vous avez le sentiment que l'intelligence humaine, que l'humain en tout cas, peut être dépassé, ça revient à ce que nous disait Daniel Handler, par l'intelligence artificielle, par la machine qu'il a créée.
En tout cas, une perte de contrôle, oui. Et finalement, dès les débuts de ces réflexions, il y avait Norbert Wiener qui a inventé un peu la discipline de la cybernétique. Il me prend une métaphore très simple, celle de la magie. On a quelque chose de très puissant, et tout l'enjeu de cette puissance d'exécution, c'est de pouvoir la contrôler. Ouais. Et peut-on contrôler en fait ces IA? Plus on va leur demander d'accomplir des tâches complexes, plus on va leur donner une certaine autonomie. C'est normal. Et donc, pourra-t-on garantir que toutes les étapes intermédiaires correspondent bien à ce qu'on voulait? Et dans des systèmes qui seront de plus en plus automatisés, eh bien la marge d'incertitude sera plus grande. Et moi, à mon avis, c'est ça la vraie question. Va-t-on déléguer des choix plus stratégiques à ces IA? Si c'est pour avoir de l'efficacité, peut-être à court terme, mais à un moment, quelque chose d'inattendu se produirait. Et là, c'est une vulnérabilité systémique qui est en cause. Et ça m'inquiète plus que l'idée d'une IA qui prendrait le contrôle, qui asservirait les êtres humains pour en faire des bonbons Haribo pour logiciels.
D'autant plus, Daniel Handler, pour reprendre un thème qui est très intéressant de Julien, c'est le thème social et politique. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ça ne va pas être un unique machin quelque part à Silicon Valley, ça va être des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de systèmes intelligents, certains robotiques, d'autres pas robotiques, contrôlant, se contrôlant réciproquement. Tout ça dans une société humaine incroyablement complexe et incroyablement conflictuelle. Alors, vous voyez ce que ça peut donner comme bazar.
Ouais, même plus que du bazar. Oui, ça peut être inquiétant quand on voit, encore très une fois, le monde dans lequel on
très
est.
Très inquiétant, d'autant plus qu'il n'y a aucun doute, on n'en a pas parlé parce que c'est un sujet en soi, mais enfin, le fait est que les armes létales automatiques existent déjà, et donc une bonne partie de la guerre est de plus en plus confiée en partie à des systèmes d'intelligence artificielle, donc en plus, avec en plus la cybersécurité, la cyberguerre, il y a vraiment des possibilité de dérapage absolument catastrophique. Mais il y a peut-être plus encore, c'est un des thèmes intéressants dans le livre de Julien, on ne peut pas parler de tout, mais enfin...
on n'a pas le temps de parler de tout, mais en tout cas, ce qui me marque, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous êtes philosophe, vous, Julien Gobin, tous les deux, vous ne pouvez pas dire que l'intelligence artificielle dépassera l'intelligence humaine. Vous êtes des défenseurs de la pensée. Il y a un prisme. Alors, c'est parce que c'est un désaveu, non, pour un philosophe ou pour un professeur membre de l'Académie des sciences morales et politiques.
Je suis à l'Académie, je suis aussi philosophe d'origine. Donc, non, effectivement, nous pourrions prendre une attitude résolument...
pessimiste?
Non, optimiste. Du genre que, bien sûr, la pensée humaine est un objet ineffable ou d'une nature complètement différente de tout ce que peut produire un mécanisme. C'est une vieille idée, et que donc nous sommes relativement à l'abri.
Mais est-ce que c'est pas une question de point de vue? Quand on a des chercheurs, évidemment les chercheurs, ils poussent l'intelligence artificielle, ils peuvent plus facilement accepter que leur bébé, ce sur quoi ils travaillent finalement, dépasse certes leur intelligence à eux, en tout cas l'intelligence de l'homme, mais quand on travaille sur la pensée, ça serait une synonyme d'un terrible appauvrissement de la pensée, de se dire que la machine est au-dessus.
Vous avez raison, et vous avez raison d'introduire aussi un petit aspect corporatiste, c'est-à-dire que j'ai un peu envie de dire que ces 2700 chercheurs d'intelligence artificielle, bon, c'est des ingénieurs informaticiens extrêmement astucieux, je pourrais certainement pas me mettre à leur place, mais ils peuvent pas tellement non plus facilement se mettre à la place d'un philosophe qui a un petit peu réfléchi, ou d'un anthropologue, ou d'un politologue, ou d'un économiste. Ce sont des domaines dans lesquels il faut réfléchir. Il ne suffit pas de dire, oui, je vois que ça progresse, et ma boîte va progresser peut-être plus vite que la boîte concurrente, ou les Chinois vont l'emporter sur nous. Ils jouent à un jeu des petits chevaux, si vous voulez, mais il n'y a pas d'argument sérieux. Le seul argument, c'est celui que Julien a rapporté de notamment Stuart Russell, qui est un grand bonhomme de l'intelligence artificielle, un type très, très intelligent, qui a contribué à façonner la discipline, et qui dit, voilà, on ne prouvera jamais, nous sommes des machines. Et ça, moi, en tant que philosophe, ça ne me gêne pas de dire que je suis une machine au sens où je suis un mécanisme extraordinairement compliqué, mis au point par l'évolution, ensuite par les influences environnementales, etc. Mais tout ça est, si vous voulez, sur le plan ontologique, sur le plan de ce qui est, c'est un système extraordinairement compliqué. Et alors Stuart Russell dit, ben, vous ne me prouverez pas que ce système qui a été fabriqué par l'évolution, par truc machin, on ne va pas pouvoir le reproduire après tout. Simplement là, c'est aussi une question de charge de la preuve. On ne s'approche pas du tout de ça pour l'instant. Personne n'a d'idée. Même là, les plus lucides des défenseurs d'intelligence artificielle disent, pour arriver justement à franchir ce seuil, il faudrait une idée nouvelle. Nous sommes à la recherche d'une idée nouvelle. Et on finira par l'avoir. Ben non, il y a toutes sortes de choses qu'on n'explique pas. La pensée humaine, la pensée scientifique humaine, a des limites. Et qui sont probablement indépassables.
Ouais. Julien Gobin, est-ce que justement ce qui triomphera, ce sera le raisonnement, les valeurs, le libre arbitre ?
Alors, le libre-arbitre, justement, moi je suis plutôt pessimiste pour plusieurs raisons. D'abord, théoriquement, le libre-arbitre, ce serait de pouvoir prendre des décisions de manière complètement autonome. Je pense qu'il y a énormément de déterminisme qui nous influence, et donc cette part de libre-arbitre me semble être plutôt fictionnelle. Mais en revanche, là où c'est peut-être l'enjeu réel, plutôt que se demander est-ce que on est libre ou non, c'est notre modèle de société démocratique suppose le consentement libre et éclairé des personnes. Ouais. Et est-ce que, avec la complexité du monde qui se dessine, avec la technique qui envahit un peu toutes les sphères de l'existence, le pouvoir de manipulation d'intelligence artificielle qui peuvent manipuler des élections avec les deepfakes, etc. Est-ce que nous sommes encore cognitivement en mesure de résister aux assauts de la technique sur nous? Et je cite juste pour les auditeurs, une phrase d'un des architectes du Brexit qui est cité par Giuliano da Empoli dans Les Architectes du Chaos, qui dit si vous voulez gagner une campagne politique, ne faites pas appel à des communicants mais à des physiciens. Pourquoi ? Parce que le monde du calcul aujourd'hui est beaucoup plus efficace est un cheval de Troie pour l'esprit humain, peut nous influencer beaucoup plus efficacement. Et donc l'ancien système démocratique, un homme politique qui s'adresse à une masse aujourd'hui, cela peut être très personnalisé avec les bons arguments pour chacun. Et donc la manipulation en fait est largement accrue. Et donc est-ce que ça a encore un sens de faire confiance à chaque individu, à l'expression de son esprit critique dans un monde où les armes de manipulation sont bien plus puissantes?
Bon, il faut bien reconnaître
Daniel
aussi
Andler.
Il faut bien reconnaître aussi que ça a toujours été une sorte d'idéal. Je veux dire, on a toujours, depuis tous les temps, les tribuns populistes ont existé chez les Grecs, chez les Romains, etc. On persuadait, avec de très mauvais arguments, mais qui portaient toutes sortes de gens d'accepter des idées complètement farfelues ou cruelles ou abominables. Donc ça a toujours existé d'une certaine façon. Mais Julien a raison de souligner qu'on a maintenant des outils d'une incroyable puissance. Si on compare ça notamment au progrès des armes à feu, je veux dire les assassinats, les meurtres de masse dans les écoles, par exemple, où un seul petit gamin peut aller acheter une Kalachnikov et tuer 50 personnes d'une fois, c'était pas possible autrefois, tout simplement parce qu'on possédait pas ces armes-là. Et on a un peu l'équivalent maintenant en matière d'outils de persuasion à la fois collective, globale et individualisée, personnalisée.
Et ça renvoie finalement à la mise en garde que vous faisiez sur le danger de confrontation, évidemment, et notamment avec le développement de la Silicon Valley et ce développement à outrance de l'intelligence artificielle. Mais pour répondre à la question, puisque c'est la fin de notre débat, l'intelligence artificielle n'est pas tout de suite prête à dépasser l'intelligence humaine. En tout cas, il y a encore de l'espoir. Je vais reprendre votre exemple du chien qui court après la lune. Donc, il y a peut-être encore un peu de temps avant d'y arriver. Merci beaucoup, Daniel Andler, professeur émérite de Sorbonne Université, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et merci, Julien Gobin, philosophe, auteur de l'ouvrage « L'individu, fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle ». Merci à Florence Ponce et Arnaud Dassewa qui étaient à la préparation de ce débat. Claude Battista à sa réalisation. Merci à la documentation de Radio France Internationale. Restez à l'écoute dans 30 secondes, c'est le grand journal du soir sur Radio France Internationale.
Écoutez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio. Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, X et Instagram.